L'émission sportive de notre radio, faites comme Jean Sureda, l'animateur, mangez des légumes et sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard vous donnera l'agenda de la semaine et aujourd'hui, messieurs, pas un, mais deux invités avec David Labarre et Denis Masseglia, président du CNOSF. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Salut.
Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi.
Bonsoir.
Timothée Rouvière, bonsoir.
Bonsoir Jean.
Et David Labarre, bonsoir David.
Salut.
Comment allez-vous messieurs en ce lundi 18 mars ?
Très bien. Bien et vous ?
Tout va bien ? J'ai appris que vous mangez des légumes.
Oui, bien évidemment. Alors les légumes sont en chocolat, bien évidemment. On ne va pas citer la marque, hein. Ça, c'est une évidence, mais on me dit, on l'a tous entendu, même Didier Rubio, hein, qu'on va recevoir tout à l'heure, bien évidemment. Qui nous dit, voilà, il faut manger de la couleur, il faut manger coloré.
Oula.
Moi, les chocolats enrobés, les cacahuètes enrobées de chocolat sont pleines de couleurs.
C'est vrai que c'est coloré en plus. Hein.
Donc voilà, c'est ça. Est-ce que vous en mangez, vous, David, la barre de ces chocolats ou...
J'aime pas trop tout ça, moi.
Je suis
sportif.
C'est vrai que Jean ne l'est pas du tout, on le précise à nos auditeurs.
C'est difficile pour moi. Hein. Je peux pas vous suivre, moi, sur les distances.
Sur le régime aussi, ouais.
Sur le régime aussi. Je me tourne vers Timothée Rouvier.
Allez, c'est parti.
Bien évidemment. Voilà, on est en mars, c'est bientôt le printemps, dans 3-4 oui. jours, là, mmh. C'est le printemps.
Le 21.
Et il faut expliquer à nos auditeurs que Timothée Rouvière, depuis le début de l'année, hein, depuis septembre, vient en t-shirt, qu'il fasse 18 ou qu'il fasse moins 25.
Aussi, ouais.
Voilà, il venait en t-shirt. On lui dit, mais tu es complètement fou. Ouais. Et là, aujourd'hui, énorme surprise.
Alors qu'il fait 40 dehors et il a sorti la doudoune.
Voilà.
Mais non, mais faut pas que j'attrape froid, c'est important. Mais en plus, c'est vrai que là, qu'il fait très très chaud, j'ai sorti la grosse doudoune de motard.
Et le pull.
Mais je commence à le regretter parce que je suis arrivé dans le studio, déjà, il fait chaud, etc.
Ouais.
Et là, je suis fauque, là, je suis pas très bien. mais ça me servira leçon parce que j'attrape froid quand je suis pas comme ça, j'attrape trop chaud ou je suis pas bien.
Faut trouver le juste milieu.
Ben oui, c'est compliqué.
Mehdi, buteur la semaine dernière, ça a donné quoi ce week-end ?
Non, c'était la semaine d'avant.
C'est
la blessure.
Il s'est claqué.
Toujours pas retour.
Là, on est sur de la convalescence. Là, on est sur un repos total, du kiné.
C'est quand le retour là, prévu ? Quand l'annonce ?
Il y a 3 semaines.
Encore
3 semaines avant le grand retour.
Il y a du boulot.
Et yes. On va parler football avec vous, hein. On en parle tout de suite. J'espère que vous êtes prêts, messieurs. On va démarrer maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Vous avez l'habitude, chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué. Cette semaine, vous êtes plutôt heureux. Je me tourne vers Maxime Brossard. Alors, il y a deux coups de cœur, entre guillemets. Alors, il y en a un, il faut le prendre avec... c'est entre guillemets.
Je vais faire tuer, sinon.
Avec second degré.
On le précise. Votre coup de cœur, je vais le balancer d'une façon brute. On va l'expliquer ensuite.
Ah, ça sent, c'est brut. Hein.
Voilà, votre coup de cœur, c'est sur la bagarre générale qui a lieu en Pro D2 entre Colomiers et Montauban. On l'explique quand même pour nos auditeurs. Vous n'êtes pas, et nous aussi, contents que les joueurs se sont battus, mais c'est plus que ça.
Déjà, c'est par rapport à Colomiers, je trouve que c'est bien parce qu'il y a eu aussi une réaction collective. On a vu que finalement, ils sont tous défendus les uns pour, enfin c'était tous un pour tous et tous pour un. Quoi. C'était voilà, ils se sont défendus, ça a soudé les liens de l'équipe, surtout qu'ils sont en difficulté au classement. Je pense que ça peut être un élément déclencheur pour rapprocher les gars dans l'équipe. Après, oui, comme on en parlait un peu en dehors de l'émission, c'est le fait que le sport est aujourd'hui professionnel est très édulcoré. Quoi. Il y a plus rien, il y a plus de claques, il y a plus de tacles au foot, il y a plus de
bourpif
au rugby. Enfin, je veux dire, après, c'est pas qu'il en faut forcément à tous les matchs et tout ça, mais bon, ça fait partie aussi du spectacle, parce qu'on peut dire quand même les joueurs dans l'arène, c'est un peu des gladiateurs aussi, donc même si quelquefois il y a quelques explications, ben c'est pas plus mal aussi, et donc je trouve que voilà, ça, pour moi, ça fait partie du sport, et c'est pas parce qu'on l'autorise un peu plus, qu'on est un peu plus laxiste, que ça va arriver à tous les matchs, et comme on le disait aussi, c'est peut-être moins dangereux que certains plaquages quelquefois, donc bon... Voilà, je trouve que les réactions qu'il y a eu après la bagarre, là, tout le monde a fait la vierge effarouchée. Ben non, non, c'est pas parce qu'il y a deux marrants que ça, c'est la fin du sport, quoi.
Timothée Rouillet.
Oui, c'est vrai, comme vous le dites, Maxime, c'est de bonne guerre. On sait qu'au rugby, il y a toutes ces actions un petit peu litigieuses, ces petites bagarres, etc. Mais après, faut pas confondre tout. Faut quand même expliquer aux jeunes dans les écoles de rugby que c'est important de pas se battre, qu'on ne se bat pas, qu'il y ait une mauvaise raison. C'est de bonne guerre.
On l'a beaucoup expliqué quand je jouais au rugby aussi, et j'étais pas le plus costaud non plus. Mais vous savez, des fois, vous pouvez rien y faire. Hein. Des fois, il faut bien se défendre. Hein. Donc, si vous êtes tout gentil, tout mignon et que vous faites marcher dessus sans rien dire, après, c'est à vos risques et périls aussi. Donc, après, je veux dire, oui, c'est sûr que c'est pas un geste à montrer dans les écoles de rugby, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura quand même des échauffourées sur les terrains. Et moi, je trouve que. Enfin, je dis pas qu'il faut applaudir, il faut condamner, comme ça a été fait avec la sanction arbitrale et l'amende qu'il y aura, à mon avis. Et puis voilà, mais c'est pas la peine non plus de surréagir par rapport à ça, je trouve.
David Labarre, vous avez fait un sport collectif, c'est le cécifoot. Vous avez été, on le rappelle, vice-champion paralympique en 2016 à Rio. Quel regard vous portez sur ces bagarres, entre guillemets? Ça fait partie du sport ou faut vraiment l'enlever?
Ouais, franchement, je pense que ça fait partie du sport. Bien sûr, il faut avoir des limites. Moi, je regarde aujourd'hui, je compare sur le foot. Hein. Un PSG-OM, aujourd'hui, ça a plus sa saveur.
Exactement.
Lyon-Saint-Etienne, c'est pareil. À l'époque, avec c'était Lopez, je crois, le gardien de Lyon, qui avait barré sur le maillot. Sur le maillot, il y avait tous les noms des clubs champions de la Coupe de France, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
Et il avait barré le nom de Saint-Etienne. Et il avait pris, je crois, 2 ou 3 matchs de suspension.
Ouais, c'est vrai que c'est débile.
Honnêtement, ça fait partie du sport, ça fait partie du foot. Je trouve qu'aujourd'hui, on est trop quand même dans le politiquement correct. Et on essaye de faire faire attention. Les journalistes, aujourd'hui, ils éteignent le feu sur PSG-OM, mais il n'y a plus rien. À l'époque, ça prenait une tournure deux semaines.
Tous les matchs partaient en bagarre.
Sans parler de ça, c'est que ça permettait aussi à des équipes qui n'avaient peut-être pas forcément le talent technique de s'imposer, de rivaliser. Quoi. On jouait un peu plus physique, on mettait un peu plus le pied. Mm. Les joueurs qui étaient techniques, ils étaient au courant. Je pense qu'ils se disaient, à ce match-là, il va falloir sauter à la corde, comme on dit.
Ouais, c'est ça.
Et voilà. Enfin, je sais pas, chacun joue avec ses armes. Quoi.
Moi, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est vrai que le sport, quand même, il est de plus en plus lisse et c'est bien dommage, surtout qu'on le médiatise de plus en plus. Le sport, on va en parler tout à l'heure avec le président du CNESF, Denis Masseglia. Je me tourne vers vous, Mehdi Guillonot, parce qu'on est en train de parler un petit peu de foot, on a un peu dévié. On reviendra vers vous, Maxime Brossard, pour parler du Pays de Galles. Mehdi Guillonot, on va parler du Toulouse Football Club qui gagne, mais bien évidemment, on parle des jeunes.
On parle des U19 du TFC qui sont qualifiés pour les demi-finales de la Gambardella. On rappelle que la Gambardella, c'est la Coupe de France, en gros, des jeunes, et Coupe de France junior des U19.
Et la finale est au Stade de France.
La finale se joue.
C'est pas un petit truc.
Exactement.
C'est le
lever de rideau de la finale de la Coupe de France au Stade de France. Les jeunes du TEF se sont imposés 2-0 face à Tours, qui les avait éliminés l'an dernier. Donc il y avait un petit goût de revanche sur ce match-là. Ils ont plutôt maîtrisé la chose. C'était vraiment très bien. Ils ont un petit peu souffert à la fin. Tours a même loupé un penalty. Et en demi, ils retrouveront Montpellier. On en discutait aussi juste avant. C'est un peu l'ogre chez les jeunes. Ils ont été champions de France chez les jeunes il y a 2 ans. L'année dernière, ils ont gagné la Gambardella il y a 2 ans. Cette année, ils sont premiers du championnat avec 10 points d'avance. Ils ont été en quart de finale de Youth League, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions aussi chez les jeunes. En 8e de finale, ils ont perdu contre Chelsea.
Ils ont perdu contre Chelsea 2-1, donc ça s'est joué à rien.
Voilà,
et ils sont en demi-finale à la Gambardella.
Ça sera un match très compliqué, mais on pourra s'appuyer sur pas mal de jeunes qui sont déjà professionnels. Et c'est ça qui étonne. C'est-à-dire qu'il y a déjà 7 ou 8 jeunes dans l'effectif qui ont signé des contrats professionnels au TEF. C'est un peu inédit. Il y a même déjà un joueur qui s'appelle Diak Quitté, qui a joué la contre-tour, qui a déjà 8 matchs de Ligue 1, qui a été titulaire en première division. Il y a d'autres joueurs qui sont chez les équipes de France de jeunes, comme Adil Taoui, Amin Adli, ou encore Mathieu Goncalves, qui est blessé en ce moment, mais qui fait régulièrement les équipes de France de jeunes. Il y a aussi un Camerounais qui vient d'arriver, qui était aussi une équipe de jeunes au Cameroun. Et on se dit que l'avenir peut être sympa, au-delà de leur épopée à eux cette année.
Timothée Rouvière, on voit que ce soit à Toulouse, à Montpellier, à Auxerre, à Rennes, à Sochaux, à Lyon, à Marseille, quand il y a une génération qui gagne en Gambardella, beaucoup signent pro et c'est tout bénef pour un club. Hein.
Oui, c'est bien, c'est important pour ces jeunes de se faire les dents, surtout dans des compétitions comme ça.
Qui sont très relevées.
Alors peu médiatisées, c'est vrai, mais pour Toulouse, c'est plutôt bien. Moi, j'étais pas forcément au courant qu'ils étaient en demi-finale de la Gambardella parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est peu médiatisé. Mais Toulouse qui vit depuis plusieurs saisons des saisons très très compliquées, qui lutte à chaque fois pour le maintien. Le fait d'avoir des jeunes qui montent des choses, qui sont repérés par les équipes de France, qui peuvent être repérés aussi par les grands clubs européens, c'est bien, ça peut être bien pour Toulouse, moi je pense.
Mais Mehdi Guillonneau, la finale au Stade de France, c'est vraiment aussi une bonne opportunité de se montrer encore plus, parce que comme vient de le dire Timothée Rouvière, c'est pas vraiment médiatisé. Par contre, la finale, on l'a dit tout à l'heure, c'est au Stade de France, c'est enlever le rideau d'une finale de Coupe de France, c'est en direct chez nos confrères de France 4 en général, c'est ça.
C'est ça.
C'est vraiment l'occasion ou jamais, quoi.
C'est une occasion ou jamais de se mettre en lumière, mais c'est surtout pour le grand public. Faut savoir que sur ces matchs-là de centre de formation, en général, pour avoir été au match ce week-end, il y avait une quinzaine de personnes avec des calepins en train de noter. Donc il y a déjà des recruteurs, il y a déjà des clubs, il y avait des gens qui parlaient anglais à côté de moi. À mon avis, voilà, c'était plutôt des émissaires de clubs anglais, lesquels je ne sais pas, mais les championnats de jeunes des centres de formation sont très suivis par les spécialistes, mais c'est vrai
surtout
que
en France.
Ça met en lumière pour le grand public. Et je note que le TFC l'avait déjà gagné, cette coupe-là. C'était en 2005 face à Lyon, ils avaient gagné 6-2.
Et c'est d'ailleurs la dernière fois que le TFC est allé en finale de la Coupe Gambardella. Alors si le TFC chez les jeunes, même chez les pros, on a jeté mauvaise langue, c'est vrai qu'ils ont gagné il y a deux semaines contre Guingamp, ils ont fait un match nul à Nice.
Un bon match nul à Nice, un
partout, même si le TFC se porte bien. C'est un peu moins le cas pour le biathlon français dans ces championnats du monde. Pourtant, il y a beaucoup de coups de cœur dans la saison d'hiver, mais ça s'est pas bien passé, hein, Timothée Rouvière.
Non, moi je suis spécialiste des coups de cœur, c'est vrai, mais là c'est pas un coup de gueule. C'est plus un coup de déception. C'était les championnats du monde de biathlon en Suède, à Östersund. Seulement 4 médailles pour l'équipe de France. Bon, l'argent pour Antonin Guillonat sur la Mastark, le bronze pour Quentin Fillon-Maillet sur le sprint, encore du bronze pour Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite, et une médaille de bronze aussi pour Justine Breza. C'est la première fois depuis 2009, je crois bien, que l'équipe de France ne récupère pas de médaille d'or. C'est surtout la comparaison avec la Norvège, moi, qui me pose vraiment problème. La Norvège qui, avec Johannes Bø titré sur le sprint, argent sur la poursuite, titre sur le relais homme, sur le relais mix, sur le relais mix simple. Donc avec encore 4 titres pour Johannes Bø, les Norvégiens qui ont aussi remporté le relais chez les femmes, médaille d'argent pour Thierry Lekhoff et Tendre Volt sur le sprint. Déçu par cette équipe de France, déçu pour Martin Fourcade aussi, et c'est un petit peu compliqué. Il a un petit peu plombé cette fin de saison. La saison avait été compliquée. Il arrête maintenant. Donc voilà, on espère qu'il va rebondir, Martin Fourcade.
Mehdi Guillonneau.
C'est surtout une déception chez Martin Fourcade. Les autres, Quentin Fillon-Maillet, deux médailles aux championnats du monde, c'est quand même exceptionnel pour lui. Il était quand même très heureux. Pareil pour Antonin Guigona. Donc le niveau est quand même assez élevé en équipe de France.
Oui, c'est bien pour Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet, mais c'est surtout Martin Fourcade qui était l'ogre et qui dévorait tout. Le fait de le voir plomber comme ça, il a annoncé aujourd'hui qu'il arrêtait sa saison. On verra qu'est-ce qui se passe la saison prochaine.
On verra, oui, la saison prochaine, toujours dans Sportez-vous bien. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes, vous avez l'habitude, avec Didier Rubio. À tout de suite.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux, sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'inventes pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux, seulement
que tes beaux yeux. Je veux tes yeux.
C'était Angèle sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'agenda sportif.
La chronique santé avec vous, Didier Rubio. On va parler de récupération. La semaine dernière, on avait parlé des repas d'avant-match. Là, on saute le match, on en parle, nous, pendant l'émission du match. Et on va partir après le match, la récupération. On entend une récupération dite classique, dormir, boire de l'eau. Là, nous, on va parler de la récupération précoce, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ?
Bonsoir, Jean. Oui, effectivement, j'écoute vos rubriques. Vous en parlez très bien. Et merci encore. Donc, du coup, la récupération, c'est l'idée simple, hein, qu'un organisme a produit un gros effort. Il faut qu'il récupère. C'est le retour à l'équilibre. Donc, évidemment, ça dépend de l'effort. Hein. Il est évident que si on fait un petit footing 30 minutes, 40 minutes, on n'a pas forcément une énorme récupération à faire. Mais après un match de rugby, de foot, ou volley, basket, autre, et surtout des grosses épreuves d'endurance, par exemple, il faut un retour à l'équilibre. Donc, l'alimentation, elle va permettre de récupérer au niveau enzymatique, au niveau musculaire, au niveau tendineux, et de fait... Il y a quelque chose que l'on appelle la récupération précoce. Exactement. Et ça, c'est juste après.
Tu vois, c'est une demi-heure, une heure après l'effort.
Exactement,
c'est, ça, hein.
C'est tout à fait ça. C'est demi-heure, une heure après. Et c'est ce qu'on appelle une fenêtre métabolique.
C'est ce qu'on voit souvent quand les caméras ont l'autorisation par les clubs de pénétrer dans les vestiaires. On voit souvent les joueurs carrément. Ça fait quoi ? Ça fait 20 minutes que le match est terminé. On les voit en caleçon, dans des bains froids, glacés. Oui. Même, c'est ça la récupération précoce.
Oui, alors la récup précoce, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que oui, il y a ce qu'on appelle cryothérapie, où on le faisait dans des bains d'eau glacée aussi.
Oui, exactement.
Par exemple, les étirements ou le massage, tout ça, c'est de la récup assez précoce. Au niveau nutritionnel, la première chose, c'est quand même la réhydratation. Donc, il faut réhydrater le corps qui a perdu de l'eau. Des fois, moi, j'encourage parfois les athlètes à voir ce qu'ils ont perdu en se pesant, par exemple, avant une grosse épreuve et après. Il y a 2 kilos de différence. C'est 2 kilos d'eau, forcément.
Par exemple, pour les sports automobiles, les pilotes de Formule 1 peuvent perdre 3-4 litres après les Grands Prix. C'est énorme.
Ouais, ça c'est énorme. Donc il faut forcément, ça c'est pas de la graisse.
3-4 kilos, pardon, j'ai dit litres, 3-4 kilos de...
Ouais, mais c'est pareil.
C'est
tout à fait ça. Et de fait, il faut les remettre, donc il faut en priorité se réhydrater. Ensuite, on avait parlé dans une autre émission du glycogène, qui était une énergie disponible pour l'effort. Et bien il faut le remettre. Donc du coup, il faut consommer des glucides. Et là, on peut se permettre de consommer des glucides, ce qu'on appelle dit rapide, simple. Jus de fruits, fruits, bananes, biscuits, par exemple, des choses un peu sucrées, rapides, qui vont refaire des réserves très rapidement. Ensuite, l'idée, c'est que si on peut avoir quelques minéraux, par exemple, manger des fruits secs, je disais des bananes, des fruits frais, ça permet quand même de remettre des minéraux qu'on a perdu quand on a transpiré. Donc ça, c'est vraiment super. Donc tout ça contribue à une récupération précoce. Si on peut mettre un petit peu de protéines, alors là c'est encore mieux, parce qu'on s'est aperçu véritablement que quand on fait du sport, on détruit du muscle, hein, c'est normal,
oui.
Les muscles qui travaillent vont se détruire un petit peu, donc l'idée pour les reconstruire et de manière efficace et rapide, c'est de prendre un petit peu de protéines au décours de l'effort. Alors, ça ne veut pas dire des protéines de complémentation. Hein. Ça peut être du jambon, ça peut être
de la charcuterie,
des œufs, pourquoi pas un petit peu de charcuterie, ou bien des yaourts, du fromage blanc, s'il y en a qui aiment ça. Et donc, quand on combine un tout petit peu de protéines, hein, par exemple, je sais pas moi, un ramequin de fromage blanc avec des sucres, c'est-à-dire de la confiture, une banane, des biscuits et des jus de fruits, on est dans une récupération, on va dire quasi idéale, précoce, au décours de l'effort, et qui permettra de récupérer plus vite finalement de ces efforts.
Justement, on récupère beaucoup plus vite, donc c'est pour privilégier les équipes qui jouent tous les trois jours.
Exactement.
On pense par exemple aux équipes européennes pour le football, pour Exactement. Le handball, le Paris Saint-Germain, Montpellier au handball, Lyon au football, voilà. C'est des équipes qui jouent tous les trois jours, donc là c'est vraiment privilégier la récupération précoce. C'est une obligation finalement, hein, d'ailleurs.
Ah oui, moi si, alors oui, c'est une évidence et c'est très bien vu, hein, c'est que lorsque les matchs vont s'enchaîner, ou voire même des entraînements hein, qui s'enchaînent, et quand on monte le niveau d'intensité, il faut récupérer de manière précoce et assez rapide. Alors là, après, dans les grandes équipes ou autres, on peut aller un petit peu plus loin dans ce qu'on appelle la micronutrition, pour apporter des acides aminés ramifiés, par exemple. Certaines molécules, moi j'ai tendance à privilégier certaines molécules pour augmenter un petit peu cette synthèse, donc, et de glycogène et de reconstruction musculaire. Donc ça, c'est capital. Après, par exemple, la récupération post-match de la Coupe du Monde, de la finale, l'objectif, ce n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'une
c'est
fois que l'objectif est atteint, voilà, là, c'est social, c'est la fête, on n'en parle même pas.
Donc, il faut en parler, justement, on a été champion du monde, il faut en parler.
Il faut en parler.
C'est une obligation.
C'est ça.
Merci Didier Rubio.
Avec plaisir, Jean, à bientôt.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Oui. On va commencer comme d'habitude avec le rugby.
Oui, on commence avec la Pro D2. On fait rapidement donc Montauban 13e qui va recevoir Soyo à 20h, ce sera vendredi soir. Ensuite, vendredi soir toujours, il y aura donc Bayonne 3e qui va recevoir donc Colomiers qui est 15e, qui a 3 points du 14e.
Gros match.
Il va être un gros match pour les Columérins, donc ce sera à 20h30. On finit avec la Pro D2 le dimanche 24 avec Béziers 5e qui reçoit Biarritz 11e à 14h45.
Un mot de football.
Je continue rapidement le rugby avec le top 14. Avec donc, le samedi, le 23, il y aura Stade Français Castres donc, à 16h45. On aura Perpignan-Grenoble à 18h45. Agen qui va recevoir Clermont à 20h45. Et le dimanche, le choc, donc La Rochelle qui recevra Toulouse à 21h.
Voilà. Et Toulouse qui est toujours leader après son très large succès contre Lyon, qui devance Clermont.
Oui, c'est ça. Et Castres 3e.
Et je regarde Coraline, pour notre réalisatrice. Ouais. Clairement, ils ont battu qui ce week-end?
Tu regardes le désastre dans mes yeux, c'est ça?
Exactement, exactement. Ils ont battu Pau, c'est ça hein.
Oui, voilà, oui. Oui,
ils finissent en roue libre un peu,
ils
non?
Ils se sont bien défendus, Pau, hein, je suis désolé. Hein.
Ouais, j'ai l'impression qu'ils finissent la saison en roue libre.
Ils se sont bien défendus. Ils ont perdu, mais ils ont offert une petite résistance.
Certes, mais finir un match à 14 contre 15, je pense qu'on aurait pu faire mieux quand même.
Et ouais,
13.
L'exigence des Béarnais quand même.
Exactement.
Rapidement, la Fédéral 1, juste pour annoncer un choc entre Tarbes et Lannemezan. Ce sera à 19h samedi. Oui, en Fédéral 1. Vous m'avez demandé de parler de rugby, donc je vous donne des vrais matchs. Hein. Je vous donne pas du flop 14 ou la Pro D2. Alors après, on continue rapidement avec le Théo 13 qui a gagné 50-0 face à Barreau. C'était le week-end dernier donc, au stade Ernest Argelès à Blagnac. Ils sont tout simplement imbattables. Le Théo, ça fait 5 victoires de suite pour les Toulousains. Et ce week-end, il se déplace chez les Batley Bulldogs. Voilà. Au foot, ouais, rapidement, avec l'équipe de France de foot. Donc,
pas de Ligue 1.
Non, heureusement, je rigole. équipe de France de foot, donc ce sera les éliminatoires de l'Euro 2020 avec là aussi un choc incroyable. Ouvrez bien les yeux, Moldavie-France, ce sera le vendredi à 20h45. Je sens que les amateurs de foot ont peur autour du plateau. Là.
Mais enfin, on rigole, mais pour les qualifications de la Coupe du Monde, la France commence par un match nul en Biélorussie et fait match nul ici à Toulouse contre le Luxembourg avant d'être champion du monde.
Comme quoi.
Donc ce qu'il faudrait, c'est faire match nul contre la Moldavie avant d'être champion d'Europe dans un an maintenant.
Il a tout planifié, genre.
Exactement.
Vous allez remplacer Dédé.
C'est quand même facile le foot. Hein.
Ah oui. Et rapidement, le lundi 25 à 20h45 aussi, là, il y aura le match des Gaulois contre les Vikings, France contre Islande. Voilà, et après, on va donner aussi quelques affiches de ces éliminatoires, avec notamment un Pays-Bas-Allemagne qui sera intéressant à suivre le dimanche 24. et en Belgique-Russie aussi. Ce sera ce jeudi à 20h45.
Un mot de handball.
Handball, le, ouais, le Phoenix rapidement le Phoenix, donc ouais, en pleine forme. Donc ce sera la 18e journée et mercredi donc à 20h30, Toulouse qui va recevoir Nîmes. Donc Toulouse 8e et Nîmes 4e. Donc ça va être une belle affiche.
Gros match.
Volé ensuite rapidement. Toulouse là qui est 10e du classement. Ils se sont inclinés lors de la dernière journée 3-0 contre Poitiers. Ouais, c'est ça. Mmh. Et là vendredi donc à 19h30, ils se déplacent à 7 pour la 23e journée du championnat.
Et un mot sur la mauvaise nouvelle du week-end,
oui,
j'ai envie de dire.
La c'est triste nouvelle, ouais, les Belugas. Ouais, les Belugas, ils ont été éliminés donc, par Rouen. Ils ont perdu 6-8, alors qu'ils menaient 4-1 au début du dernier tiers. C'est une remontée un peu spectaculaire. Mais bon, voilà, ils sortent donc en quart de finale du championnat de France, puisqu'ils avaient perdu la première confrontation. Ça fait donc 2-0 sur l'ensemble des rencontres pour Rouen, qui passe en demi-finale. Fin de saison pour les Belugas, on les retrouvera la saison prochaine.
Et le Beluga qui était quand même plus ou moins favori.
Ouais.
Hein, de
et en fait, ouais, c'est ça, c'est Rouen, ils créent la surprise. Ils ont fait tomber le leader de la poule A lors des huitièmes de finale. Et là, ils ont fait tomber les Belugas qui avaient fini quatrième et Rouen avait fini huitième de poule. Voilà. Ouais.
Eh ben, rendez-vous l'année prochaine maintenant, oui, pour les Belugas. Merci Maxime. Nous, on passe au premier invité de la soirée.
Sportez-vous bien, l'invité.
Notre invité connaît bien les locaux de Radio Présence pour y être déjà venu. David Labarre, un sportif non-voyant, continue de réussir des exploits. Rebonsoir David.
Oui, rebonsoir.
On parle de nouvel exploit, tout simplement. C'était quoi le dernier exploit en date pour nos auditeurs?
Eh bien écoutez, je suis parti donc sur un trek donc sur le GR78 entre Carcassonne et Aspet dans le 31, 213 km, en autonomie totale, avec du lyophilisé, avec une tente, un réchaud.
Le minimum quoi.
Ouais, avec un sac de 20 kg sur le dos.
Fantastique.
Voilà, donc ça a été une super expérience. Et j'ai fait beaucoup plus de kilomètres que prévu.
C'est vrai.
Je suis parti avec des feuilles braille. J'ai pas eu de GPS.
Ouais. Ah oui, en plus.
Voilà, donc j'ai recopié le livre du GR78. Mmh. Et donc voilà, j'ai suivi en tout cas ce GR qui passe donc dans les villages, en montagne et dans les forêts, enfin tout ça quoi. Donc ça a été une belle expérience. Sur ces 2 semaines.
Maxime Brossard.
Allez, donc 2 semaines, vous avez mis combien de kilomètres par jour à peu près pour avoir une idée?
Alors j'avais tablé à l'époque sur quand je suis parti sur 15.
D'accord.
Sauf qu'en fait j'en ai fait entre 20 et 25 par jour.
Ah oui, c'est costaud.
Parce que je me perdais et j'ai des histoires extraordinaires.
Ah.
Mais vraiment.
Par exemple.
Bah, par exemple, je suis au-dessus de Pamiers, donc je parle de Vals pour les gens qui connaissent, c'est dans le 09. D'un petit village, donc je pars, je suis la piste forestière. Et là, sur mon topo en bras, il y avait un chemin qui partait à gauche. Donc je ne savais pas s'il fallait le prendre ou pas. Donc je le prends, je fais tout le tour du vallon, en fait, et je redescends sur Vals. Donc.
Bah, au moins, il se met des nouveaux.
Ouais.
Encore des kilomètres dans les
ouais,
jambes.
C'est ça, ouais, ouais.
Vous
c'est...
êtes acclimaté à l'altitude.
Exactement,
pour redescendre.
Ouais, c'est... Donc je reprends cette piste forestière.
Et encore un tour, c'est ça?
Non, là je suis monté encore plus haut, j'ai pris le chemin à gauche. J'arrive donc, je passe sur une crête, tout ça, j'arrive dans une ferme. Et là, impossible de trouver mon chemin en fait. Je traverse la route, impossible de continuer sur le GR. Je vais voir donc dans la ferme, il y avait l'agricultrice, qui était là. Et elle me dit, non, le GR il passe juste derrière la ferme. Donc en fait, j'étais en train de ramper. Elle m'a fait passer sous les clôtures électriques.
C'est vrai. Oh là.
Avec mon sac de 20 kilos, je rampe, je prends le GR. Je continue à monter. Et là, je me retrouve en haut, en fait, sur une crête. Et là, sur mon topo, il y avait marqué chemin qui part à gauche, il faut le prendre. 450 mètres. Alors j'y vais, je le cherche. Impossible à le trouver. Impossible. Je continue la piste forestière, enfin le chemin. J'arrive sur une route goudronnée. Je pars sur la gauche dans une ferme, personne. Donc je continue en fait, je reprends la route et je descends dans la vallée derrière la montagne de l'autre côté. Et j'arrête une voiture et le monsieur très gentil me dit « Mais non, mais il faut remonter.
Oh.
Le chemin, il a 450 mètres sur votre droite. » Je remonte 3 km de plus, je remonte. Et là j'arrive en fait, impossible de trouver le chemin, impossible. Et là, mais au milieu de nulle part. Et là,
et on le rappelle, vous êtes tout seul. Hein,
ouais, je suis tout seul, ouais, bien sûr. Ah, je suis tout seul. Donc j'ai des grands moments de solitude, c'est-à-dire que quand on marche et on ne sait pas où on va,
psychologiquement, c'est dur, très compliqué, ouais. très compliqué.
Et comment on sort de, alors, de cette galère,
ben, là, en fait, j'entends derrière moi un type qui donne des coordonnées GPS. Et je me retourne et je vois trois militaires. Trois militaires qui étaient derrière moi. Donc là, j'ai dit, les mecs, vous tombez bien, quoi. Donc, on a commencé à repartir, à marcher ensemble. Il s'avère qu'on s'est paumé ensemble, bon, voilà.
Alors pour et... des militaires, c'est peut-être plus inquiétant, quand même.
Ouais, je leur envoie le bonjour, quand même, parce que c'est super. Et en fait, bon, il y avait un point de contrôle dans un village, tout ça. Et puis on arrive dans ce village. Et là, ils ne savaient pas s'il y avait le point de contrôle. Et il s'avère qu'il y avait le point de contrôle. Et le sergent qui les contrôlait, il s'avère que c'était mon voisin de Toulouse.
Oh, donc, voilà.
Ah ouais, c'est énorme.
Incroyable.
Énorme. Donc ça a été, ça a été
c'est
énorme.
Fou, ça.
j'ai plein d'histoires comme ça. Une petite dernière marrante qui était extraordinaire. J'arrive donc dans un village pareil, dans l'Ariège. Mm. 80 habitants, tout ça.
Donc, rien, quoi.
Ouais. Et là, il y avait un papy avec à côté d'une bascule. Ça servait à peser les animaux à l'époque. Ouais. Il y en a plus que 3 en Ariège. Donc le papy m'explique tout ça, la bascule. Puis là, je lui dis, bah, écoutez, moi, je fais le GR 78, je suis parti de Carcassonne et je vais jusqu'à Aspé. Et je suis malvoyant. Et là, il part en courant, quoi.
Mais non.
Si, il part en courant. Il me dit, suis-moi. Donc je le suis. Et là, il ouvre un conteneur à poubelle. Tu sais, un truc. Et là, je pensais qu'il allait me mettre dedans, en fait.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Et là, il ouvre et il me dit, regarde. Il me dit comme ça. J'ai fait, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il sort, en fait, le conteneur, il était rempli de livres en braille.
Ah ouais,
excellent.
Incroyable.
Des partitions musicales de violon. Il y avait la biographie de Jacques Brel en braille. Il n'y en a qu'une dans le monde, elle était là.
Mais non, c'est incroyable, ça.
C'est énorme. Donc voilà, ça, c'est les histoires.
C'est des bons souvenirs, quoi.
Ouais, c'est des très bons souvenirs. C'est des histoires un peu marrantes. Après j'ai eu un peu moins marrant où le dernier jour, je suis tombé dans une tempête avec donc un vent à 150 km/h avec des arbres qui tombaient, tout ça.
Oh, ça va.
Ouais, là, par contre, j'étais à 1003 sur le col du Porté d'Aspé. Mmh. Je marchais 2 heures à flanc de falaise, quoi. Mmh. Et en fait, c'était psychologiquement, c'est très compliqué parce que. On marche, mais on ne sait pas. Je ne sais pas si je suis dans la bonne direction. Et au bout de 2 heures, je tombe sur un couple qui randonnait. Et je l'ai filmé parce qu'on va faire un petit film de tout ça.
C'est bien, ça.
Ouais. Et en fait, je suis mais extrêmement content de les voir. Et ce trek, en tout cas, m'a remis, comment dire, m'a refait goûter à la vie. Mmh. Les petites rencontres, les petites choses, c'est vachement important. Et ça, en tout cas, on se raccroche à des toutes petites choses pour arriver donc à l'arrivée sur Aspé. Ça a été super. Je remercie vraiment tous les gens qui m'ont soutenu parce que j'ai rencontré plein de gens. Il y a eu un très très gros engouement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tous les gens qui m'ont suivi, toute mon équipe, parce que j'avais quand même une équipe qui était sur Toulouse et dans l'Ariège pour me suivre. Philippe aussi, il a fait mon associé.
Qui est juste derrière.
Bonjour. Il dort. Mais je les remercie. Il est timide. Il est trop timide. Il parlera pas. Et voilà, donc je remercie vraiment tous ces gens-là. Et je remercie aussi Sabrina de la Gazette du Comminges, que je fais des gros gros bisous parce que tous ces gens-là m'ont suivi et ça a pris un engouement même national sur des reportages.
Justement, les prochains projets, qu'est-ce qu'il en est sur les prochains projets? Comment on vit de ça et comment on peut t'aider justement à faire ces projets?
Bah, le prochain projet, donc ça sera pas en solitaire parce que là je pars avec donc mon équipe en expédition sur le Mont Blanc. Donc on va faire on va partir la deuxième semaine de septembre. Le budget est pas tout à fait bouclé, donc on recherche également des sponsors.
Ça table sur combien? On peut dire les chiffres?
Table sur du 29 000 euros.
D'accord.
Voilà, donc on a
avec le matériel,
avec tout le matériel, okay. Tout ça. Donc on est 6 à partir parce qu'il y a une équipe aussi de caméramans et de journalistes, donc qui viennent avec moi. Donc voilà, toujours dans le but de faire des petits films pour partager un petit peu cette expérience.
Et on peut vous demander tout simplement aussi des partenariats parce qu'il faut vous aider justement pour réussir ces projets.
Ouais, 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 je recherche des partenariats, donc si Jean, vous voulez bien...
Si je gagne au loto, promis, je vous donne 10 euros.
Il faut jouer déjà, j'ai un peu gagné au loto.
10 euros, c'est tout ?
Ouais, 11. Ouais, je... Allez, 11.
11, bon, c'est gentil. Je m'en vais, on s'en va. Non, non, ouais, on recherche bien sûr des partenaires. Aujourd'hui, il y a le Toulouse Football Club qui est donc mon partenaire sur mes expéditions. Je les en remercie. Et puis, il y a des nouveaux. Voilà, il y a des nouveaux qui sont là. Et donc, voilà, c'est une belle expérience, c'est une belle aventure. Et donc, toute personne est la bienvenue.
Donc, le message est passé sur Radio Présence. Merci, David Labarre.
Merci.
Voilà, on va continuer à vous suivre, bien évidemment. Durant la saison et sûrement l'année prochaine, hein, si vous le voulez.
Ah, avec grand plaisir.
On est d'accord.
Ouais, grand plaisir.
C'est parti. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec notre deuxième invité de la semaine. À tout de suite. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my mind. I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming. I'm on my mind. I'm on my mind. She'll make you curse. But she a blessing. She'll rip your shirt. Within a second. You'll be coming back. Back for seconds. With your play. You just can't help it. Oh. You you'll be saying no, no, then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on mine. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on mine. Grab a cop gun, kinda crazy, she's poison but tasty. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your.
Portez-vous bien, l'invité.
Notre deuxième invité est tout simplement le président du Comité National Olympique et Sportif et Sport Français, pardon. Denis Masseglia est à la tête du sport en France depuis 2009. Denis, bonsoir.
Bonsoir.
Tout simplement, voilà, vous êtes président du CNOSF. Qu'est-ce que le CNOSF pour nos auditeurs ?
Alors, le CNOSF a deux missions et rôles essentiels. Un vient du CIO qui lui donne le pouvoir de représenter sur le territoire français les intérêts du moment olympique. Et puis la deuxième mission, elle vient de la loi française, le CNOSF étant le représentant légal du mouvement sportif français qui est le premier des mouvements associatifs. J'ai toujours beaucoup de fierté à le rappeler. avec pratiquement 180 000 clubs affiliés dans 90 fédérations sportives. Donc voilà.
Vous gérez tous les sports du plus populaire au moins populaire, on peut dire ça.
Oui, voilà, l'avantage du CNOSF, c'est de rassembler sous sa bannière tous les sports, olympiques ou non olympiques, les fédérations qui sont unisports ou multisports, et donc tous ceux qui ont envie d'être dans une organisation fédérée se retrouvent effectivement dans un contexte plus unitaire avec le mouvement sportif, enfin avec le CNOSF représentant du mouvement sportif.
Est-ce qu'on peut dire que le CNOSF est un peu le conseil d'État du sport français? On prend l'exemple dernièrement, par exemple pour le report d'un match de Ligue 1 entre le Nîmes Olympique et le Stade Rennais. Le Nîmes Olympique a fait appel au CNOSF. Ça se passe comment quand c'est comme ça?
Non, en fait, c'est en résumé, quand on dit a fait appel au CNOSF, le CNOSF abrite une structure qui s'appelle la conciliation. La loi française impose à deux parties prenantes du mouvement sportif de passer obligatoirement par une éventuelle conciliation avant d'en recourir aux tribunaux. Bon, c'est ce qui s'est passé là. Il y a à peu près 400 cas par an que la conciliation étudie. 75% des cas sont résolus positivement, ce qui fait quand même une économie d'échelle non négligeable pour la société française. Et puis, ce qui est important surtout, c'est que c'est une conciliation totalement indépendante du CNOSF. Le CNOSF ne fait qu'abriter la structure et payer les cadres qui s'en occupent.
Justement, on parle de loi, alors qui dit loi dit souvent le gouvernement et les ministres des sports. Quel lien justement vous avez avec le ministre des sports et le gouvernement en place à chaque fois? Bien évidemment, on ne parle pas de politique, mais quel lien vous avez à chaque fois avec les différents gouvernements? On le rappelle, vous êtes à la tête du CNOSF depuis 2009, donc des présidents, des gouvernements, il y en a eu. Et le ministre des sports, justement, quels sont les liens avec?
Alors en fait, on a un lien qui est, pour le CNOSF en tout cas, on a un lien qui est partenarial, qui n'est pas un lien ni tutélaire, ni en termes de délégation, contrairement aux fédérations qui sont dans un contexte un peu différent. Et c'est pour cela aussi que, aussi bien le ministère des Sports que nous-mêmes, avons souhaité une évolution de la gouvernance du sport pour que tous les acteurs du sport travaillent de manière plus concertée, plus partagée. Comment on pouvait en quelque sorte mieux faire ensemble, puisque collectivités territoriales, État, mouvement sportif et monde économique sont quatre acteurs majeurs du sport.
On va en parler tout à l'heure des Jeux Olympiques, que ce soit Tokyo 2020 ou bien évidemment ceux de Paris en 2024. Mais par exemple, le lien avec les gouvernements, qui choisit d'organiser les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est le CNOSF qui fait appel, enfin qui demande au gouvernement savoir s'il y a un accord, ou est-ce que c'est le gouvernement qui va du côté du CNOSF? C'est dans quel sens et comment c'est fait une organisation de Jeux Olympiques?
C'est une bonne question. Il faut savoir que pour qu'une candidature olympique soit reçue par le CIO, il faut qu'elle soit co-signée de deux signataires, le maire ou la maire de la ville candidate, donc en l'occurrence c'était Paris pour 2024, et le président du comité olympique, avec un engagement de l'État de financer les infrastructures nécessaires à l'organisation des Jeux. Voilà. Donc on est avec une initiative qui ne peut appartenir qu'aux deux signataires qui sont le maire ou la maire de la ville candidate et le président ou la présidente du comité olympique.
Et quand on parle justement du CNOSF, on pense tout de suite aux Jeux Olympiques, parce qu'on le rappelle, c'est le comité national olympique et sport français. Mais entre les Jeux Olympiques, que ce soit d'hiver bien évidemment ou d'été, que fait le CNOSF?
Alors, juste d'abord pour préciser, Comité national olympique et sportif français, puisque ça rassemble les fédérations sportives qui ne sont pas forcément olympiques. Alors, en fait, on a beaucoup de missions, dont notamment celle de représentants du mouvement sportif, ce qui fait que tout ce qui touche au développement des pratiques, à la formation, à l'emploi, au rayonnement international et autres, nous concerne. Et puis, pour ce qui est des Jeux olympiques, la préparation des athlètes, elle est confiée, elle, aux fédérations. Par contre, durant la quinzaine olympique, la charte olympique indique que la délégation française est placée sous la responsabilité unique du Comité national olympique du pays, ce qui fait qu'en fait, le CNO a le pouvoir d'engager l'équipe qui va participer aux Jeux, de la sélectionner, d'en assurer la logistique, les équipements et autres, ce qui fait quand même que c'est assez redoutable comme mainmise, entre guillemets, puisque personne ne pourrait imposer dans une sélection olympique un athlète dont le Comité national olympique ne voudrait pas.
Le sport, les Jeux olympiques et le sport sont très médiatisés, surtout hein, les Jeux olympiques. Et justement, le CNOSF a choisi Média 365 pour la médiatisation du sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, on a fait une consultation pour trouver un partenaire pour faire une chaîne 100% sport pour tous les sports, dans laquelle il n'y ait pas de critères d'audience pour faire en sorte que la promotion soit le vecteur numéro un de la chaîne en question. Donc, à partir de là, on a eu une réponse, enfin, on a eu trois réponses et on a choisi l'offre de Média 365 qui nous permet, un, d'avoir la main sur la programmation, ce qui est une garantie qu'aucun sport ne sera éliminé parce qu'il ne serait pas, entre guillemets, vecteur de suffisamment d'audience. Deux, de faire des images qui seront données gratuitement à tous les autres médias. Donc, on n'est pas dans une forme d'exclusivité ni de défense des droits qu'on aurait, mais au contraire, dans une forme de prosélytisme quant à l'activité sportive, et il n'y a jamais trop de promotion pour celle-ci. Voilà, donc c'est vraiment une chaîne avant tout promotionnelle. On va dire qu'elle doit permettre à tous les sports qui actuellement ne trouvent pas de place sur le petit écran de pouvoir en avoir de même.
Le but, il y a des investissements, il y aura des retombées, ou vous l'avez dit, c'est redonner gratuitement à d'autres télés.
Oui. Ben, l'avantage, c'est qu'on a un budget qui n'est pas bâti sur des recettes d'audience, donc on est totalement affranchi de cette difficulté. Bien sûr qu'on essaiera de faire en sorte que les émissions puissent intéresser le plus grand nombre, mais aujourd'hui, on peut se rendre compte que certains sports ne sont pas à l'antenne, qu'il y a des débats qui tournent pratiquement exclusivement autour des buts du championnat de France de football. Bon, pourquoi pas, mais nous, on a envie de faire autre chose et d'intéresser un autre public. Donc, c'est pour ça qu'on veut développer cette chaîne qui va aussi, évidemment, avoir une répercussion sur Internet et qui doit permettre à tous ceux qui ne se sentent pas aujourd'hui reconnus par les autres médias de pouvoir se rapprocher de nous et d'exister différemment.
Le but étant peut-être aussi de fédérer par rapport aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Alors, ben, sur les 28 disciplines olympiques et les 4 additionnelles, ce qui fait quand même 32 disciplines, vous pouvez vous douter que les 32 ne bénéficient pas d'une médiatisation assez marquée, notamment en vue des Jeux de 2024. Donc, ça va permettre pratiquement aux deux tiers des fédérations olympiques et puis à toutes les autres qui ne bénéficient pas aujourd'hui de médiatisation de pouvoir au moins espérer en avoir un petit peu. On est davantage dans un système d'égalité des chances et pas d'égalité de traitement, bien évidemment. Mais l'égalité des chances, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
On a une question d'un chroniqueur, Timothée Rouvière.
Bonjour Denis. Vous parliez tout à l'heure des sports additionnels. On sait qu'il y a le breakdance, le surf qui vont intégrer Paris en 2024. Comment le choix il a été fait ? Ça n'a pas été trop dur de choisir entre ces quatre sports ? On sait qu'il y a beaucoup de fédérations qui souhaitaient intégrer les programmes des Jeux Olympiques.
Bien sûr, il y a eu 19 fédérations qui ont postulé et présenté un dossier au comité d'organisation, au COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. La décision appartenait au COJO et au CIO, je tiens à le dire. Donc le CNOSF, lui, a accompagné toutes les demandes parce que c'est son devoir et qu'elles émanaient ces demandes de ses membres. Donc il ne pouvait pas se permettre ni de sélectionner, ni de ne pas traiter de manière égalitaire toutes ces demandes. Après, il y a des critères qui sont toujours discutables, comme à chaque fois qu'un choix est à faire. Donc, il faut respecter aussi que le choix est fait entre le CIO, qui est le propriétaire des Jeux, et le COJO, à qui le CIO confie la charge de les organiser.
Dans un peu plus d'un an, maintenant, un an et quatre mois, débutent les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Aujourd'hui, sur quoi travaille le CNOSF par rapport à ça ?
Bah, essentiellement sur des questions de logistique, comment faire en sorte que la délégation française puisse séjourner, voyager, être équipée dans les meilleures conditions. Comment préparer aussi le fait que beaucoup d'athlètes sont parfois, entre guillemets, surpris par l'environnement olympique. C'est pas un championnat du monde, hein. Il faut vivre avec d'autres athlètes dont certains sont des stars. Donc il faut s'y préparer, et pour ça il y a des rassemblements multidisciplinaires qui donnent une véritable entité à l'équipe de France olympique, et donc créer un état d'esprit commun à des athlètes qui proviennent de 28 fédérations, alors 33 pour Tokyo avec les 16 sports additionnels. Donc c'est pas si évident que ça, et c'est important de le faire pour que l'environnement ne surprenne pas, ce qui est parfois le cas des athlètes les plus jeunes et les moins expérimentés.
À un an justement de ces Jeux Olympiques, est-ce que le CNOSF a des comptes à rendre entre guillemets au CIO ou pas du tout ?
Non, il doit respecter la charte olympique tout simplement, et c'est normal, tous les CNO sont soumis à la même enseigne, et c'est important aussi qu'on essaie, ne serait-ce que parce que les sélections olympiques sont devenues extrêmement difficiles à atteindre, les critères de choix qui sont fixés par les fédérations internationales. La sélection olympique, elle est dure à avoir, et c'est déjà un exploit que d'y participer. Évidemment, c'est encore plus un exploit lorsqu'on est finaliste ou médaillé, ou encore mieux, champion olympique.
Sur le plan sportif, l'objectif des médailles, est-ce qu'il est déjà fixé ou c'est encore trop tôt ? C'est encore trop tôt ?
Non, c'est encore trop tôt. On a eu quelques hésitations dans la préparation à cause des incertitudes qui ont été liées à la fois au choix de la ville olympique pour 2024 et puis au fait que notre modèle allait être aménagé. Alors c'est sûr que tous ces changements perturbent un tout petit peu, mais bon, moi je pense que la délégation qui va se rendre à Tokyo aura pour objectif de faire au moins aussi bien qu'à Rio. Je rappelle qu'à Rio on a fait un record de médailles, 41, mais on en a eu moins en or que ce qu'on a eu à Atlanta, puisqu'on a eu 10 médailles d'or comparativement aux 15 d'Atlanta. Voilà, donc si on peut augmenter le nombre de médailles d'or, ça serait bien. Mais ce n'est pas un objectif affiché aujourd'hui. Hein.
D'accord. Sur quoi et comment sont fixées justement les médailles ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des disciplines que un président du CNOSF attend plus que d'autres pour rapporter des médailles ?
L'histoire a chaque fois montré que on atteint souvent un nombre de médailles à peu près conforme à ce que l'on avait prévu, sauf que c'est pas ce qu'on avait prévu qui les obtient.
Comme la natation.
Il y a souvent son lot de surprises agréables et puis son lot de surprises un peu moins agréables qui concernent parfois des athlètes qui auraient sans doute gagné 9 fois sur 10, mais qui, dixième fois, n'ont pas décroché la médaille qu'ils espéraient, quelle qu'en soit la couleur.
Par exemple, la natation en 2016, ça avait été une grosse déception.
Alors, on ne peut pas dire ça. Par exemple, Florent Manodou, on pensait qu'il était intouchable sur 50 mètres, et puis il perd un centième de seconde. Donc, qui peut dire que on refait la course, le centième, c'est vraiment le doigt qui sépare deux nageurs à l'arrivée. Quant à Renaud Lavillenie, je me rappelle qu'il passe 5,98, record olympique battu, et puis que le Brésilien sort un saut d'une autre planète le jour où il faut. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi la magie des Jeux, c'est la magie du sport, hein, c'est la glorieuse incertitude qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, évidemment, mais qui fait que il y a comme ça des moments magiques. Alors des fois ils tournent dans votre sens et puis des fois un peu moins, c'est normal ça.
Avec l'organisation, on va parler un petit peu de Paris 2024, avec l'organisation justement des JO en France en 2024, alors on va le mettre entre guillemets bien évidemment, est-ce qu'on est un peu moins exigeant avec ceux de 2020 en termes de résultats pour être vraiment prêt en 2024? L'objectif c'est 2024 ou il faut surtout pas passer l'étape 2020?
Non, je crois que l'étape 2020, elle est importante, mais de toute façon, comme tout ce que l'on met en place a vocation à générer de la performance, surtout en 2024 et encore plus en 2028, il est évident que 2020 va être une étape sur laquelle il sera difficile de juger de la pertinence de ce qu'on met en place. Nous, on croit véritablement que la cellule qui va être pilotée par Claude Onesta va apporter un certain nombre d'atouts pour mieux performer. Bon, maintenant, elle a été mise en place cette année. Vous savez comme moi que le haut niveau ne se crée pas instantanément et qu'il faut petit à petit permettre aux meilleurs de progresser. On a un système de détection en France qui doit être amélioré. On a le système d'accompagnement à la haute performance, c'est-à-dire ce qui permet de passer des médailles de bronze et d'argent à des médailles d'or, qui doit être lui aussi amélioré. Voilà, donc c'est vers ça qu'on va tendre, et essayer de voir comment on peut, petit à petit, parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y aura que du travail et des moyens et de l'engagement pour pouvoir atteindre un objectif de performance à la hauteur de l'enjeu Paris 2024.
Pour terminer, quel est le prochain événement majeur pour le CENOSF dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir?
Ben, on a d'abord à réussir la nouvelle gouvernance du sport dans laquelle on est un des acteurs, hein, au même titre que l'État, les collectivités ou le monde économique. Et puis la prochaine étape majeure, ça sera la journée olympique le 23 juin, parce que il faut lui donner une résonance plus importante, parce qu'aujourd'hui, il est important de fédérer tout le sport français derrière Paris 2024. On n'est plus dans la phase de candidature, on est dans la phase d'adhésion populaire pour un événement qui doit permettre de faire passer la France d'un pays de sportifs à un pays sportif. Voilà, ça c'est le but qu'on s'est fixé. C'est 5 ans pour y parvenir.
Merci beaucoup Denis Masseglia d'avoir été avec nous sur Radio Présence.
Merci à vous.
Merci, au revoir. C'est déjà terminé pour nous messieurs. Merci à Coraline bien évidemment à la réalisation. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Oneille et Corinne Saint-Félix. À 9h Vivante Église avec Emmanuel Pella. Merci beaucoup messieurs. Merci David Labarre d'avoir été encore avec nous.
Avec plaisir.
Rendez-vous dans 2-3 mois de retour sur la radio.
Carrément, avec plaisir.
Merci bien, bonne semaine avec Radio Présence. À bientôt.
Présence. Candide et les experts.
Candide et les experts.
Venez vous régaler d'histoire, de cinéma, de culture. Vous n'aurez plus aucun prétexte de dire que vous ne saviez pas de cinéma, de culture. Vous n'aurez plus aucun prétexte de dire que vous ne saviez pas.